Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel et 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Contenaire.
Dernière partie avec Haïti à la une. De nouveau, des tirs à Pétionville dans la banlieue de la capitale. Cela fait 3 jours maintenant et les habitants sont terrés chez eux. Revue de presse dans quelques minutes. On se penchera aussi sur les conséquences de la suspension de l'agence de développement américaine USAID et des coups portés à une autre institution chargée de la gestion des urgences. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour. Avec vous, Benoît Ferrand, pour parler du grand port maritime de la Martinique qui veut se donner les moyens de ses ambitions.
L'ambition de devenir un hub incontournable dans la Caraïbe. Nous entendrons tout à l'heure le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique.
À tout à l'heure. Et tout de suite, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
61 pays ont donc signé tout à l'heure, en milieu de journée, la déclaration finale du sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui avait lieu à Paris.
Oui, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne brillent par leur absence. Ils n'ont pas signé le texte en faveur d'une IA inclusive et soutenable sur le plan énergétique. Et en parallèle de ce sommet qui réunit les leaders mondiaux au Grand Palais, la Station F à Paris accueille de son côté le Business Day de l'intelligence artificielle. Bonjour Alexis Bédu.
Bonjour Alban.
Vous êtes sur place pour RFI, tout comme des centaines de start-up et entreprises de la tech. Et ce qui fait beaucoup réagir Station F, c'est l'intention d'Elon Musk de prendre le contrôle d'OpenAI, numéro 1 mondial de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, ce qu'a immédiatement balayé le patron de l'entreprise.
Oui, tempête dans un verre d'eau, guéguerre des égaux. Les participants du Business Day en discutent au détour d'un café. Cette offre, c'est du folklore pour Maxime Bousneau et Cassie Macour. Ils sont fondateurs de la start-up française Meeting Pot.
J'y crois pas beaucoup et d'ailleurs, Sam Altman a répondu avec humour. Moi, je rachète Twitter pour 10 milliards. Donc je pense que c'est plus une guéguerre entre les deux.
C'est une blague et j'espère que ça se fera pas parce que du coup ça biaisera beaucoup trop OpenAI comme ça a biaisé Twitter ou X actuellement.
Ils sont bien plus passionnés par les débats, les innovations exposées ici, mais difficile d'éviter de parler de ces deux mastodontes de la tech forcément inspirants pour Yoni Habitant, chargé de la transformation tech chez le cabinet de conseil PwC.
On peut critiquer ces personnages, mais je pense qu'on a besoin en France d'avoir des entrepreneurs de ce calibre-là. Dans la tech, on a besoin de rôle modèle. Des gens comme Altman, comme Musk font partie de ces calibres-là.
La plupart de ces développeurs travaillent sur des modèles de langage d'OpenAI, les fameux LLM. Pour Antoine Gauthier, cofondateur de la start-up QuantPy basée en Allemagne, sorte de testeur de l'intelligence artificielle, il faut garder de la distance vis-à-vis de ces géants américains.
Choisir entre ces gros LLM, c'est un peu comme choisir entre des partis politiques qui déclarent pas forcément leur agenda. Donc maintenant, c'est à nous, en tant qu'utilisateurs, de poser les questions, de comprendre, mais qu'est-ce qu'on veut ?
Et pas grand monde ici ne veut d'une puissante IA générative ayant Elon Musk au gouvernail.
Merci Alexis Bédu en direct de la Station F pour suivre le Business Day de l'intelligence artificielle.
Donald Trump confirme sa volonté d'imposer des droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium.
Ils s'appliqueront à partir du 12 mars, fait savoir le président américain qui menace aussi le Hamas. Il promet un enfer au mouvement palestinien s'il ne libère pas tous les otages d'ici samedi. Hier, le Hamas a reporté jusqu'à nouvel ordre le 6e échange d'otages, en affirmant tout de même que la porte restait ouverte, une manière de répondre à la proposition de Trump de déplacer les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
En quelque sorte, le Hamas veut nous dire que s'il n'y a pas un retour à l'accord, notamment sur les deux questions principales, celle de l'entrée de l'aide humanitaire prévue dans l'accord additionnel et celle de déplacement libre des Gazaouis vers le nord de la bande de Gaza. Ce sont des éléments importants et qui s'ajoutent bien sûr à la déclaration de Trump qui a fragilisé l'accord. En quelque sorte, Trump évacue la question du jour d'après, de la gouvernance de Gaza. Et cette déclaration, avec les limites de l'application du protocole humanitaire, ont poussé le Hamas à prendre cette décision. Ce n'est pas une décision, mais plutôt une menace, un avertissement adressé surtout aux médiateurs et bien sûr au gouvernement israélien.
Des propos recueillis par Pierre-Olivier.
16h05 à Ankara, en Turquie, où les enquêtes et les arrestations se multiplient depuis plusieurs semaines.
Diviser pour mieux régner, c'est en somme la stratégie de Recep Tayyip Erdogan en lançant ses vastes opérations d'interpellation contre l'opposition et surtout le CHP, premier parti d'opposition. Une dizaine d'élus responsables municipaux d'Istanbul ont été placés en garde à vue ce matin, accusés d'avoir des liens avec le terrorisme. Les précisions d'Anand Lauer.
Le Parti républicain du peuple, CHP, avait remporté l'an dernier les mairies de 26 des 39 arrondissements d'Istanbul. Ces derniers mois, deux de ses maires ont été incarcérés. Les arrestations de ce mardi concernent des adjoints aux maires et conseillers municipaux de 7 autres arrondissements, tous accusés de lien avec le terrorisme, en l'occurrence avec le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan. Et pourtant, dans le même temps, le pouvoir mène des négociations avec le chef emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, qui devrait bientôt appeler son organisation à renoncer aux armes. Le parti procure de l'égal, le DEM, est directement impliqué dans ses efforts de paix. Pour la politologue Seren Selin Korkmaz, ce n'est pas un paradoxe.
Le pouvoir d'un côté fait une ouverture vers les Kurdes et de l'autre, il met sous pression les autres acteurs de l'opposition, en particulier le CHP. Et parce qu'il le met sous pression, il l'empêche de soutenir franchement les efforts de paix, ce qui peut avoir pour effet de créer une cassure entre les acteurs du mouvement politique kurde et le reste de l'opposition. Entre le DEM et le CHP, le pouvoir essaie de casser l'union de l'opposition.
C'est cette union plus ou moins tacite des partis d'opposition et de leurs électeurs qui avait contraint Tayyip Erdogan à affronter pour la première fois un second tour à la présidentielle de 2023 et à perdre les municipales de l'an dernier. Le CHP est convaincu qu'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et rival du président, sera la cible ultime de ses arrestations. Anand-Laure, Ankara, RFI.
Laurence, en France, la ministre en charge du handicap annonce la tenue d'un comité interministériel sur le sujet. Le 6 mars, il faut avancer sur la question de l'accessibilité, dit-elle 20 ans après l'adoption de la loi handicap qui promettait une égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap et leur inclusion. Dès hier, elles ont manifesté à l'appel du collectif handicap qui regroupe une cinquantaine d'associations. Laurence Théo y était pour RFI.
La pluie battante n'épargne ni les cheveux ni les lunettes, mais Vincent, en fauteuil roulant, voulait être là. Il parle d'une grande loi, celle de 2005, que la République a oubliée.
Je dirais qu'il y a des choses qui ont été faites, mais pas assez. Notamment, pour vous venir, j'ai eu un problème avec les bus. Les rampes ne sortaient pas, donc du coup j'ai dû attendre pour venir en sachant qu'il pleut.
Clara insiste sur le manque d'accessibilité.
Pouvoir vivre comme une personne valide. Vous êtes handicapé parce que l'environnement n'est pas adapté. Après, le handicap, il disparaît.
La pluie ne semble pas gêner Anaïs. En fauteuil roulant, elle sait braver les tempêtes. Elle évoque le difficile accès aux soins.
Vous voyez les cabinets de dentaires, par exemple, ou les cabinets de gynécologie, impossible de trouver quelque chose hors hôpital.
On retiendra le grand sourire de Sarah. La jeune femme évoque la réticence des employeurs à embaucher des personnes en situation de handicap.
Je pense qu'il y a de la peur. Ils pensent que on n'est pas capable de faire des choses alors que généralement, en fait, les personnes qui ont un handicap, on a une capacité d'adaptation incroyable.
Le handicap reste la première cause de discrimination en France.
Laurence Théo, il est 14h09 à Paris, 8h09 à Port-au-Prince. On vous retrouve, Anne Cantner, pour RFI Midi.
Merci, Alban Leprince. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes et d'abord donc en Haïti.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Où la tension est toujours très grande à Pétionville, en banlieue de la capitale. Des tirs ont de nouveau été entendus ce matin, notamment sur l'un des principaux axes de la commune. La route de Frère, à côté de l'académie de police, c'est ce que nous rapporte notre correspondant. Et cette situation, elle est aussi à la une de la presse que vous avez lue pour nous, Anne Verdaguet. Les médias haïtiens ont pu recueillir des témoignages d'habitants.
Oui, d'importantes rafales ont été signalées, ce qui a créé l'inquiétude au sein de la population qui est terrée chez elle, rapporte Alter Press. Des tirs qui ont débuté dans la nuit de samedi à dimanche et se sont intensifiés hier en début d'après-midi, perturbant les activités commerciales et scolaires. Il s'agirait de gangs armés, selon l'article, la police ayant repoussé des tentatives du gang Crasse-Barrier d'envahir plusieurs quartiers de Pétionville. Depuis le 7 février, date charnière bien sûr en Haïti, marquant cette année les 39 ans de la chute de la dictature des Duvaliers, la tension monte dans plusieurs communes. Les conseils exécutifs intérimaires de Pétionville, Kenskoff et Tabar ont alerté sur le climat de terreur lié à la menace des attaques de gangs, encore plus prégnant ces jours-ci. Les autorités ont, elles, fait paraître un communiqué réaffirmant leurs engagements totaux à combattre l'insécurité et à éradiquer les criminels. La population doit respirer, la peur doit changer de camp, peut-on y lire. Au même moment, la police nationale a reçu de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince du matériel neuf pour une valeur de 6 millions de dollars, dont des armes, des munitions et des véhicules blindés, selon un article à lire dans le Nouvelliste.
Autre engagement de la présidence haïtienne, poursuivre les personnes sanctionnées par les États-Unis, le Canada et l'ONU.
Oui, c'est aussi à lire dans le Nouvelliste. Depuis décembre 2020, les États-Unis, le Canada et le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptent des sanctions contre des chefs de gang, des hommes d'affaires et des leaders politiques haïtiens accusés de menacer la paix et de financer les activités des gangs armés, mais aussi de perpétuer des actes de corruption. Ces personnes seront désormais susceptibles d'être poursuivies en Haïti. Le président du Conseil présidentiel de transition a écrit sur son compte X vouloir agir avec fermeté pour traduire en justice, je cite, ceux qui sapent la sécurité et la stabilité d'Haïti.
La presse haïtienne se fait aussi l'écho d'un appel lancé par Martine Moïse, la veuve du président assassiné Jovenel Moïse. Elle demande à Donald Trump de déclassifier tous les documents relatifs à la mort de son mari.
Oui, elle espère qu'il fera le même geste que celui qu'il a effectué après son investiture pour déclassifier les documents relatifs aux assassinats de l'ancien président JF Kennedy, de son frère Robert F. Kennedy et de Martin Luther King. Plusieurs enquêtes sont en cours suite à l'assassinat de Jovenel Moïse en Haïti et aux États-Unis, mais le processus judiciaire en Haïti progresse lentement, selon le Nouvelliste. S'adressant directement au président américain sur les réseaux sociaux, Martine Moïse fait un parallèle entre les réformes entreprises par son défunt mari et celles menées par Donald Trump, insistant sur le fait que l'ancien président haïtien a voulu, comme le président américain, mettre un terme aux milliards de dollars de corruption empochés par les oligarques. Fin de citation.
Anne Verdaguet, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre revue de presse.
RFI, The World's Voices.
Mais avant, on prend donc la direction des États-Unis où l'administration Trump poursuit sa guerre contre les dépenses fédérales, contre un certain nombre d'institutions publiques, dont USAID, même si la justice a bloqué la décision du président de renvoyer une partie du personnel. Le tout s'accompagne d'un torrent de fausses informations. USAID financerait des médias ou des candidats démocrates, encouragerait des idées d'extrême gauche. Bref, c'est une vraie campagne contre l'agence de développement. Et cela a des conséquences partout dans le monde, car les fonds de USAID sont distribués pour l'aide humanitaire. Ça a aussi des conséquences aux États-Unis. Reportage dans le sud de l'État de Géorgie, dans une entreprise qui fabrique des produits alimentaires pour combattre la faim, pour les vendre à USAID, justement. Edouard Maille.
Entre des champs de coton et de cacahuètes se trouve l'usine de Mana Nutrition. L'entreprise à but non lucratif fabrique des pâtes d'arachide riches en nutriments, ensuite envoyées dans le monde comme aide humanitaire pour lutter contre la faim. Alan Galbraith est le manager.
Des enfants meurent s'ils n'y ont pas accès. Tout ce qu'on fait est pour eux. On mesure notre production quotidienne par rapport au nombre d'enfants qu'on peut nourrir.
Il estime que 98% de la production est vendue à l'USAID, qui a ordonné à l'entreprise d'arrêter les contrats. Ordre qui a ensuite été annulé la semaine dernière. Malgré cette confusion, le manager doute que le gouvernement américain mette fin à ses dépenses.
Je n'imagine pas quelqu'un s'y opposer et dire « on n'a pas besoin de nourrir ces enfants ». Je pense qu'ils vont continuer les financements d'une façon ou d'une autre.
La Tranda Williams travaille dans cette odeur de cacahuètes grillées. Elle a effectué un séjour en Ouganda et en Éthiopie pour mesurer l'importance du produit qu'elle fabrique.
On est allé à l'hôpital et certains des enfants pleuraient à cause de la faim. Pas juste à cause d'une maladie, mais de la faim. Ce sont des pleurs différents. Ce sont des enfants dans le besoin et ils n'ont pas le nécessaire.
L'entreprise estime avoir nourri en 2022 un million d'enfants grâce à ses produits. Edouard Maï Fitzgerald en Géorgie, RFI.
Et après USAID, c'est l'organisme de gestion des urgences qui est dans le viseur d'Elon Musk et de son équipe. D'ailleurs, la secrétaire à la sécurité intérieure disait encore le week-end dernier qu'elle recommanderait à Donald Trump de se débarrasser de la FEMA telle qu'elle existe aujourd'hui. Quant au président, il envisage au mieux de la réformer complètement, au pire, de la supprimer. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne.
C'est très loin d'être anodin, car cette institution, c'est celle qui se mobilise en premier en cas de catastrophe climatique, comme on en voit de plus en plus aux États-Unis.
Oui, rien qu'en 2024, le pays a été frappé par 3 ouragans majeurs. Et nous avons évidemment encore tous en tête les terribles images des incendies à Los Angeles il y a quelques semaines. Et à chaque fois, la FEMA était là.
Et quelle est sa mission ?
Eh bien, il y en a plusieurs. La FEMA s'occupe de la prévention, bien sûr, des catastrophes. Elle identifie les menaces, organise des campagnes de formation auprès des populations concernées pour qu'en cas d'urgence, elles aient les bons réflexes. La FEMA aide à protéger les personnes, les biens et les infrastructures critiques comme les hôpitaux, les écoles ou les routes. Pendant une situation de crise, l'agence assure les opérations de secours, les approvisionnements en eau et en nourriture, les abris pour les déplacés, les services sanitaires, le rétablissement des télécommunications. Elle mobilise aussi des moyens humains et logistique pour éteindre des feux, s'il y en a. Et ensuite, eh bien, c'est encore la FEMA qui fournit une aide financière aux sinistrés pour se relever de la catastrophe.
Et on imagine que ces missions multiples coûtent cher ?
Oui, absolument. L'enveloppe allouée par le Congrès à la FEMA pour 2025 s'élève à 33 milliards de dollars quand même. L'an dernier, l'agence a dû demander d'ailleurs une rallonge budgétaire en raison de la multiplication des catastrophes climatiques. Alors, la FEMA a été fondée en 1979 par le président Jimmy Carter, qui avait une certaine idée en tête, comme l'explique Erin Sikorsky. Elle dirige le Centre Climat et Sécurité à Washington.
La FEMA a été créée parce que certaines catastrophes nécessitent la mobilisation de toutes les forces vives. Les États ne peuvent pas les gérer seuls. Et puis tous les États n'ont pas les mêmes moyens. Or, il faut veiller à ce que tous, qu'il s'agisse d'un État riche comme la Californie ou d'un État comme le Dakota du Nord, dont la population est moins importante et donc l'assiette fiscale aussi, puissent bénéficier de la même protection. Mais Elon Musk agit très rapidement pour démanteler différentes agences et la FEMA est dans sa ligne de mire. Cela expose les Américains à un risque plus élevé car certains d'entre eux ne disposeront pas des ressources nécessaires pour gérer et répondre aux catastrophes. J'estime donc que c'est très dangereux.
Alors Donald Trump a évoqué l'idée de laisser les États fédérés gérer seuls, justement, des situations d'urgence sur leur territoire et de rembourser ensuite seulement leurs dépenses par l'argent fédéral. Après l'ouragan Katrina, on s'en souvient, qui avait fait plus de 1800 morts en 2005, la réputation de la FEMA avait été entachée. En effet, l'agence reste pourtant inégalée aux États-Unis en cas de crise majeure.
Merci Stéphanie Schuller. Voilà ce qui concerne la politique intérieure. En ce qui concerne la politique extérieure des États-Unis, Donald Trump multiplie les provocations, notamment sur les questions commerciales. Et ses récentes déclarations d'imposer 25% de droits de douane sur tout l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis fait beaucoup réagir. En témoigne, Anne Verdaguer, le nombre d'articles dans la presse.
Oui, El País parle d'un véritable tsunami pour les économies des principaux exportateurs d'acier que sont le Canada et le Mexique, ainsi que le Brésil, pays qui est devenu en 2024 le deuxième fournisseur au monde de cet alliage. L'accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis est lui aussi menacé, souligne le journal. La première bataille de la guerre économique avec les États-Unis portera sur l'aluminium et l'acier canadien, titre le journal québécois Le Devoir. Les industriels sont profondément préoccupés, poursuit le quotidien. Prenant l'exemple du premier round de taxes douanières lors du premier mandat de Donald Trump, le quotidien rappelle que dès 2018, les exportations de produits canadiens en acier ont reculé de 37,8%, alors que les exportations d'aluminium ont diminué de moitié. Pour l'entrepreneur mexicain Carlos Slim, il faut renforcer les échanges avec les autres pays, et notamment la Chine. Le mania des télécoms mexicains pense aussi que les tarifs douaniers ne sont pas faits pour durer. Ces propos sont à lire dans El Milenio.
Et puis la presse revient aussi sur l'expulsion de 190 Vénézuéliens immigrés aux États-Unis, renvoyés dans leur pays hier soir à bord de 2 avions affrétés par Caracas.
Oui, le New York Times parle d'une victoire importante pour Donald Trump. Le président américain avait promis pendant sa campagne d'expulser des millions de migrants sans papier. Pour y parvenir, poursuit le journal, il a besoin de soutien et notamment de celui du président vénézuélien, de plus en plus isolé par les autres dirigeants et qui doit accepter de les accueillir. Le journal El Mundo publie une photo de Nicolas Maduro au palais de Miraflores à Caracas, serrant la main de Richard Grenell, l'envoyé de Donald Trump pour l'émission spéciale, qui a supervisé l'envoi de ces deux premiers avions de migrants vénézuéliens. En échange de cette bonne entente, souligne le journal, l'administration Trump n'a pas pris de sanctions internationales contre le pays et n'a pas non plus retiré les licences accordées à la compagnie pétrolière américaine Chevron pour produire 200 000 barils de pétrole par jour sur le sol vénézuélien.
On vous emmène maintenant bien loin du continent américain, en Syrie, mais dans une ville du sud où tout le monde a un proche, une connaissance originaire du Venezuela. Justement, d'ailleurs, Souaïda est surnommée la petite Venezuela. Notre envoyée spéciale, Mélissa Barra, s'y est rendue. Voici son reportage.
Bonjour et bienvenue dans notre petite boutique. Voici nos tout derniers produits.
Carmelinda Rouslan fabrique des petits drapeaux en macramé. Ces drapeaux syriens de la Révolution ont trois étoiles et une bande verte. Ils étaient interdits sous le régime de Bachar el-Assad.
Nous les avons tissés rapidement, il fallait faire vite. C'est une nouvelle vie qui commence pleine d'espoir. Les gens ont besoin d'une vie meilleure.
Cinq artisanes travaillent dans la boutique de Carmelinda. Elles confectionnent des sacs, des accessoires de décoration et même des poupées vêtues de costumes traditionnels vénézuéliens.
Ce sont des llaneros, des cow-boys du Venezuela. On a le père, la mère et l'enfant.
14 années de guerre civile ont ruiné l'économie syrienne. La nouvelle Syrie a besoin de femmes indépendantes financièrement, selon la commerçante.
Ces femmes travaillent. Ce n'est pas facile parce que l'économie est en récession et les prix sont élevés. Les femmes doivent faire vivre leur famille. Comme au Venezuela, toute la famille travaille.
Comme au Venezuela, nosotros, la familia toda trabaja.
Carmelinda Rouslan est née à Caracas, au nord-est du Venezuela. Elle vit en Syrie, le pays de ses parents, depuis qu'elle a 14 ans. Dans un mélange d'espagnol et d'arabe, elle explique que de nombreux clients ont les mêmes origines, puisque Souaïda, à une centaine de kilomètres au sud de Damas, est le fief de la plus grosse communauté syrienne vénézuélienne.
Me preguntan, Carmelinda, ¿qué tienes de Venezuela?
On me demande, mais Carmelinda, tu as des produits du Venezuela? Je fabrique des objets pour ma communauté. Nous sommes nés au Venezuela, nous sommes rentrés en Syrie, mais la terre vénézuélienne n'est à jamais dans nos cœurs.
Les habitants de Souaïda ont tous un cousin ou une tante en Amérique latine. Un historien local nous explique qu'une première vague de Syriens a émigré dans les années 50 au Venezuela pour travailler dans les champs et dans les mines d'or. Puis, après le coup d'État en 1970 de Hafez al-Assad, le père de Bachar, d'autres sont partis pour trouver un emploi dans les exploitations pétrolières. Certains enfants de ces générations sont rentrés en Syrie. Sausan Almaz en fait partie. Elle a ouvert dans le centre-ville un restaurant où se retrouvent tous les mois les membres du groupe d'amitié Syrie-Venezuela.
Quand les clients demandent des arepas vénézuéliennes, nos galettes de maïs traditionnelles, nous les préparons. On peut se procurer de la farine de maïs, mais elle est chère, elle est importée. L'ancien régime avait mis beaucoup d'impôts sur les produits d'importation. Ils coûtaient trois fois plus cher qu'un produit national. Le prix devrait baisser désormais. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas.
Durant les années 2000, le gouvernement vénézuélien a tissé des liens avec Bachar al-Assad. On dit qu'à ce moment-là, Souaïda a reçu le surnom de « Petite Venezuela ». Aïda Adefi est gérante d'une pharmacie et membre du club d'amitié.
Tu sais, quand Chavez était vivant,
quand Hugo Chavez était en vie, il est venu à Souaïda et il a posé la première pierre du club vénézuélien de la ville. La moitié des habitants se sentent vénézuéliens, de naissance ou parce qu'ils sont venus de là-bas, eux ou bien leurs enfants et petits-enfants. Mon père et ma mère sont arrivés en bateau. Mes enfants sont nés au Venezuela. Ce pays est notre terre, notre mère.
La 2011 a marqué un moment décisif dans cette grande histoire de migration. La guerre civile et la sanglante répression ont déclenché une nouvelle vague d'exil.
La Syrie est belle, mais nous avons beaucoup souffert à cause de ce président. Qu'il brûle en enfer. À cause de lui, nous avons été contraints à l'exil. Beaucoup de gens ont quitté le pays pour le Venezuela, la plupart depuis Souaïda. Maintenant, nous sommes heureux. C'est la première fois que je peux en parler publiquement, car avant, on pouvait vous couper la tête pour cela. Nous sommes âgés, mais je pense au futur de nos enfants et de nos petits-enfants. J'espère que la Syrie va se relever et devenir meilleure qu'avant.
La ville de Souaïda a manifesté au quotidien pour le départ de Bachar al-Assad. Elle a été relativement épargnée par la répression. Ses murs exhibent encore les slogans de la liberté et ces femmes vénézuéliennes ne cessent d'entonner l'hymne de la Syrie nouvelle. Lève la tête, tu es un Syrien libre. Mélissa Barra, Souaïda, RFI.
Reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Dernière partie de votre revue de presse pour l'heure, Anne Verdaguet. En Colombie, où les journaux font toujours leur gros titre sur la crise politique ouverte dimanche, quand le président Petro a demandé à ses ministres et aux hauts fonctionnaires de démissionner.
Oui, El Espectador explique que dans un tweet qu'il a publié quelques heures avant d'atterrir à Dubaï, où il entame une tournée au Moyen-Orient, le président Gustavo Petro a clairement indiqué qu'il ne voulait pas de division interne entre ses ministres. El Tiempo craint que le départ des ministres, et notamment du ministre de l'Intérieur, n'ait des conséquences sur l'avancement des réformes sociales, et notamment celle de la justice. Le départ de Juan Fernando Cristo, poursuit le journal, est une perte. Il était un homme rassembleur qui, en 7 mois, est parvenu à tempérer les foudres du Congrès colombien, touché par plusieurs scandales.
Anne Verdaguet pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Le grand port maritime, autrement dit le port de Fort-de-France, veut se donner les moyens de ses ambitions.
L'ambition de devenir un hub incontournable dans la Caraïbe. Alors pour cela, il faut construire et investir, ce qui se traduit concrètement par un allongement des quais du port et des portiques de chargement plus efficaces, plus performants. Philippe Joc est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Il est au micro de Franck Zozor.
Très clairement, il y a de nouvelles lignes maritimes et ça ouvre de nouvelles perspectives aux commerçants. Mais ça ouvre de nouvelles perspectives aussi aux industriels martiniquais. Il s'agit pour eux de trouver des sources d'approvisionnement en matières premières dans la Grande Caraïbe et dans l'Amérique latine, puisqu'aujourd'hui, ils auront un accès régulier avec en plus un investissement inclus dans ce grand port maritime qui est le poste d'inspection aux frontières, qui permettra des contrôles sanitaires et donc la possibilité d'importer en direct d'Amérique latine et de la Grande Caraïbe des produits qui jusqu'alors repartaient en Europe avant de revenir chez nous. Je crois qu'aujourd'hui, les acteurs sont prêts à ce changement. Ils le demandent parce qu'on l'espère. Aussi, un impact sur les prix. Nous aurons des matières premières et des produits qui arriveront avec des coûts qui seront moindres, qui ont un bilan carbone meilleur. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à poursuivre notre intégration dans la Caraïbe et dans l'Amérique latine.
On reste en Martinique avec Yves Jégot, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer de mars 2008 à juin 2009 et auteur du livre « C'est où la France ?». Invité ce matin de Grégory Gabour sur la première, sur l'antenne de la première, il a plaidé pour une nouvelle appellation de l'Outre-mer français, la France du monde.
Moi, je pense qu'il y a deux France, qu'il y a une France d'Europe, on voit bien ce qu'elle est, et puis qu'il y a une France du monde, et que cette France du monde, elle s'incarne dans des territoires sur les trois océans, dans des territoires au carrefour des grands sujets du monde du XXIe siècle. On est arrivé à la fin d'un modèle pour nos collectivités, nos départements, nos régions ultramarines, et qu'il faut aujourd'hui refonder l'avenir, qu'il faut ce que j'appelle une nouvelle donne, qu'il faut que ces territoires deviennent des territoires de production, deviennent des territoires d'exportation, deviennent des territoires de rayonnement politique, culturel, économique dans leur zone géographique, et que tout ça nécessite un grand débat aussi pour faire prendre conscience aux Français de métropole que ces territoires, c'est pas seulement des cartes postales dont on parle quand ça va mal, quand il y a des épisodes climatiques dramatiques ou quand il y a des difficultés sociales, qu'il y a à travers cette France du monde un potentiel universel pour porter notre pays au plus haut dans un monde qui se mondialise et où il faut être présent partout.
Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée ce mardi par Diego Tenorio. Vous restez sur notre antenne. Dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Invité aujourd'hui, Vanessa Springora pour parler de son nouveau roman, Patronyme. Très bonne journée à tous.
Milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Pourquoi les filles doivent oser devenir ingénieures? Comment les sensibiliser dès le lycée?
Jeudi.
Sirènes de police, klaxons, construction d'immeubles, musique. Mais dans quel monde de bruit vivez-vous?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.